Bon, je propose qu'on...
Quand tu veux.
Qu'on officie.
Ça marche.
Hop.
Ça marche. Ça marche. Vous entendez bien ?
Ouais, répond la foule.
En délire.
En délire, à 11h du matin, samedi. On se rend pas compte. C'est fou. Alors, merci d'être venu en ce samedi matin. On va parler traduction. Et on va parler traduction avec Jean-Daniel Breck, et notamment des relations entre les traducteurs et leurs auteurs. Américain, comment est-ce qu'on s'approprie l'univers d'un auteur, comment est-ce que la relation intime peut rentrer dans le travail aussi de traduction, comment parfois ça se passe bien, hein. Jean-Daniel Breck par exemple vient de devenir un personnage de roman, donc voilà, il n'existe plus vraiment, l'homme que j'ai à côté de moi est un personnage de fiction, parfois ça se passe un petit peu moins bien avec des lettres de rupture, on va discuter un petit peu de tout ça. Alors pour vous présenter Jean-Daniel Breck,
sur voilà. Lit de mort.
Bon, on va pouvoir le voir sur son lit de mort, c'est chouette hein, de savoir tout ça. Donc Jean-Daniel Breck est un des grands traducteurs qu'on a la chance d'avoir dans les domaines de la science-fiction et de la fantasy, non seulement parce que c'est quelqu'un qui a traduit des auteurs comme Stephen King, Clive Barker, Paul Anderson, Dan Simmons, etc., enfin des inconnus quoi, hein. et en plus il a récidivé parce que souvent il a fait plusieurs romans donc on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça, et puis depuis quelques temps il est aussi directeur d'une collection chez Rivière Blanche, une collection qui s'appelle Baskerville, où alors là les auteurs sont souvent morts, donc on verra
toujours.
On verra un petit peu le relationnel, quel relationnel on peut avoir avec un auteur mort.
J'avais demandé une table ronde hein, d'ailleurs.
Ouais. Merci, si vous pouviez tous vous tenir par la main et puis quelques incantations. Bref, on va peut-être commencer par le commencement, juste pour situer un petit peu, quand est-ce que tu es devenu traducteur et comment tu es devenu traducteur, comment ça s'est fait?
Je suis devenu traducteur au début par passion, puisque je fréquentais au début des années 80, je travaillais beaucoup pour des fanzines de la petite édition, pour Francis Valéry, pour Richard Desnolan, etc., et qui m'ont confié à traduire des textes. Bon, ça a surtout commencé par Nolan pour des nouvelles d'horreur modernes, et petit à petit j'ai pris contact avec des gens comme Joël Ventrebert, qui m'a mis le pied à l'étrier en me demandant des traductions de nouvelles pour Univers, qu'elle dirigeait à l'époque chez J'ai lu. Puis Nolan s'est retrouvé en position de diriger une collection professionnelle, donc c'est là que j'ai traduit... Le premier livre que j'ai traduit, c'était le Scarabée de Richard Marsh, on y reviendra. Puis Trois cœurs, trois lions de Paul Anderson. Et puis ensuite, Albin Michel, qui publiait déjà Stephen King, a commencé à s'intéresser à d'autres auteurs d'horreur. Ils ont cherché des gens pour les conseiller. Ils sont allés voir Joël Ventrebert, qui leur a dit « Allez voir Jean-Daniel Breck ». Ils m'ont contacté et ils m'ont dit « Est-ce que vous êtes traducteur ?» Ben, j'ai dit « Oui ». C'est un gros mensonge. Et ils m'ont confié Clive Barker. Voilà. En résumé, c'est comme ça que ça a commencé.
Pourquoi un gros mensonge ?
Parce que je n'étais pas un vrai traducteur professionnel. Je n'en vivais pas. J'avais fait quelques traductions. Mais bon, il existait déjà à l'époque des gens, ne serait-ce que un grand ancien comme François Truchot, qui est toujours en activité, qui traduisait Masterton et qui, lui, était un vrai traducteur professionnel, quoi, pour citer un nom.
Alors, vous avez vu, hein, déjà, on a commencé à parler de Stephen King, de Clive Barker, enfin, des petits noms. Est-ce qu'il y a un auteur qui t'a marqué particulièrement et à partir de quand tu as pris contact avec certains ?
Des auteurs qui me marquent particulièrement, il y en a beaucoup. Le premier auquel je suis resté fidèle pendant, on va dire, 50 ans, en tant que lecteur, puis en tant que traducteur, en tant que découvreur, c'est Paul Anderson. Mmh. Évidemment, pour moi, c'est la grande admiration qui parcourt toute ma vie. Mmh. Je suis très content maintenant de pouvoir faire découvrir des œuvres qui sont restées inédites. Bon, à l'époque où je traduisais surtout beaucoup de fantastique moderne, il faut savoir que j'habitais dans le nord de la France, que je me rendais régulièrement en Angleterre, et que j'ai appris à connaître personnellement tout un tas d'auteurs anglais, donc des gens comme Brian Lumley, Ramsey Campbell, que je voyais régulièrement lors de fêtes arrosées à Londres ou lors de conventions à Birmingham. Et donc je les connaissais, je les traduisais, bon, et c'était, pour moi ça faisait partie de la même chose, quoi. C'était le plaisir et le travail.
Ouais, c'est lequel le premier qui tu as commencé à tisser des liens, que tu traduisais en même temps?
Je pense que c'est un peu Barker.
Ouais.
Au début, bon, Barker, je m'en suis un peu éloigné parce que je ne me reconnaissais pas dans son évolution. À partir de Imagica, j'ai décroché. Bon, ça tombe bien puisque il avait changé d'éditeur en France et on a pu faire appel à moi pour le traduire. Donc, bon, on s'est éloigné l'un de l'autre sans... Je ne sais pas, il faudrait lui demander ce qu'il en pense, lui, mais moi, je ne regrettais pas tellement. Quoi. Ouais. Même si j'ai quelqu'un que je continue d'admirer, mais ce n'est plus ma tasse de thé.
C'était, on va en parler hein, avec Dan Simmons et Lucius Shepard. Quelle place a ce relationnel par rapport à la traduction? Est-ce que tu puises des choses dans ton amitié hein, avec certains auteurs qui te servent après pour ton boulot?
Ça peut servir et ça peut se retourner contre moi. Bon, on en parlera tout à l'heure. Dans la mesure où moi j'avais commencé, je pense, à traduire des gens que je connaissais, je me suis dit, bah, les gens que je traduis, je vais essayer de les connaître. Voilà, pour moi, c'était une relation de correspondance, donc ce qui permettait de demander de temps en temps. Bon, là, j'ai pas très très bien compris la référence. Je me souviens la première fois que j'ai rencontré Dan Simmons, j'étais en train de traduire ce qui allait devenir L'Échiquier du Mal, et je savais qu'il allait venir à une convention en Angleterre, à Londres, ou oui, je pense que c'était à Londres. Donc j'y suis allé, je me suis présenté, j'avais mon exemplaire de Clarion Comfort en édition de poche. Postité à mort, et je lui dis, j'ai quelques questions à vous poser. Oula. Donc, il dit, écoutez, on est allé s'isoler dans un coin, on a commandé, je ne sais plus si c'était un café ou une bière, et donc j'ai regardé, et ça lui a permis de se rendre compte, parce que c'est un livre qui avait une histoire éditoriale assez compliquée, il a existé au moins 3 versions, dont la première est restée inédite, la deuxième c'était l'édition cartonnée, et la troisième c'était le poche à partir duquel je travaillais, et il s'est aperçu qu'il y avait une scène dans le poche qui ne tenait pas debout. Parce que le travail avait été un peu bâclé. Donc il m'a dit, écoutez, voilà ce qui se passe, là, voilà comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Bon. Donc c'est quand on peut avoir ce genre de relation, ça sert tout le monde. Ça sert l'œuvre, ça sert l'auteur et ça sert le traducteur. C'est idéal. Bon. Et c'est comme ça qu'on a pris contact. Et bon, je pense que là, il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux et il m'a fait confiance par la suite.
Alors, quand tu dis il t'a fait confiance, est-ce que ça veut dire qu'il a, sur les éditeurs français, il y a eu des recommandations? Comment ça se passe? Comment ce relationnel, cette confiance, toi, déborde sur l'édition?
Alors, c'est un problème, c'est une question très complexe, d'autant plus que le contexte de l'édition a beaucoup changé ces dernières années. Mais grosso modo, un éditeur. Quand je dis éditeur, ça peut être un directeur littéraire. C'est-à-dire, par exemple, pour citer un nom, quand je dis un éditeur, c'est Gilles Dumay, non pas de Noël. Tu vois, quelqu'un qui a des responsabilités, qui choisit, c'est pas le grand patron. Donc, un éditeur, il travaille avec un certain nombre de traducteurs, et quand il est content du travail de X, il fait appel à lui, et quand X lui demande « j'ai besoin de boulot », lui donne du boulot, il se constitue une écurie, quoi. Ouais. Bon. Et avec Dan Simmons, ça a été très complexe, parce que dès le début, il a eu des problèmes aux États-Unis parce qu'il n'était pas identifié avec un genre précis. Quand il a éclaté dans les années 89-90, il faut se rappeler, il a publié coup sur coup aux États-Unis le premier volume d'Hyperion et ce qui allait devenir L'Échiquier du Mal. Et en même temps, il écrivait un roman de littérature générale qui s'appelait L'Herbe d'Icare en français. Et les éditeurs, ils étaient fous. Ils ne savaient pas comment le caractériser. Et quand il a commencé à intéresser les éditeurs français, il y a eu le même phénomène. Parce que Gérard Klein, qui était à l'affût, et je me souviens, je crois que c'est Dominique Martel qui lui avait conseillé, il a acheté Hyperion, parce que c'était de la science-fiction, c'était pour Ailleurs et Demain. Parfait. Gérard Klein, L'Échiquier du Mal, ça ne l'intéressait pas. C'était pas ce qu'il publiait. Bon, Albin Michel, qui était à l'affût également, qui est éditeur de Stephen King, donc qui regardait les rivaux, Albin Michel s'est intéressé à ses bouquins d'horreur, à commencer par Nuit d'été, etc. Mais il a laissé passer L'Échiquier du Mal. Donc on s'est retrouvé, Dan Simmons, publié en France par 3 éditeurs. Et donc Klein a confié Hyperion à Guy Abadia, qui était un de ses traducteurs les plus costauds. Albin Michel a confié les bouquins de Dan Simmons à divers traducteurs sans trop chercher à faire une unité. Et Jacques Chambon a fait appel à moi. Il m'a fait débuter chez De Noël avec L'Échiquier du Mal. Je peux dire, ça a été une sacrée responsabilité, parce qu'un bouquin qui, quand même, vous avez vu L'Échiquier du Mal, vous avez vu à quoi ça ressemble. Donc, et de sa part, lui, ça a été une grosse prise de risque, parce qu'il ne me connaissait pas. Le premier quart de L'Échiquier du Mal, il y a eu des allers-retours incessants, c'est-à-dire je lui renvoyais ce qu'il me faisait, il me renvoyait ses corrections, jusqu'à ce qu'on se cale, jusqu'à ce qu'il soit d'accord, etc. J'ai fait beaucoup, beaucoup de progrès avec Jacques Chambon. Pour moi, c'est un maître, hein. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a fait travailler, c'est lui qui m'a appris mon métier, et c'est lui après qui m'a fait confiance et avec qui j'ai travaillé, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais en collaboration.
C'est une question effectivement qu'on pourra aborder, là, ce relationnel avec les éditeurs et comment est-ce qu'on progresse aussi dans le métier et ce rôle-là. Dan Simmons, puisqu'on va rester sur lui un petit peu, on verra.
C'est une séance psychanalyse, là. Ouais, c'est une catharsis.
C'est un peu ça. D'ailleurs, on va allonger Jean-Daniel sur une table.
La table tournante et maintenant le divan. C'est Rocher Beaubois ici. Hein.
Qui peut tourner aussi, mais enfin bon, ça va être compliqué après pour le Val de Mer. Non, simplement sur Dan Simmons, donc c'est un relationnel. Enfin, tu me racontais hier que tu as été chez lui. Deux semaines, quelqu'un que tu connaissais bien. Est-ce que ça t'a servi dans certains passages pour mieux appréhender son écriture ?
Oui, tout à fait. Mais je pense pour moi, et c'est aussi vrai pour les auteurs morts, on en parlera tout à l'heure, quand je me passionne pour un auteur, je finis par entendre sa voix dans ma tête quand je le lis. Mmh. Et donc, si j'ai eu l'occasion de le voir, de le rencontrer en vrai, c'est mieux, parce que j'ai l'impression qu'il me parle. Donc ça, le contact se fait mieux, quoi. Mmh.
Comment est-ce qu'on aborde quelqu'un comme Dan Simmons ou les auteurs américains quand on va les voir en disant voilà, je suis traducteur en France, mais il a d'autres traducteurs dans d'autres pays. Quel relationnel, qu'est-ce qui se passe?
La première fois dont je me suis présenté à lui modestement, bon, et je pense qu'honnêtement la séance de travail qu'on a fait où il a vu que j'avais lu son bouquin avec attention, donc il m'a pris au sérieux. Et donc après, bon, on s'est vu deux ou trois fois, c'est-à-dire qu'il est venu deux ou trois fois en France comme ça, je l'ai vu dans des conventions, et bon, on a tissé ce que je croyais être une véritable amitié, quoi. Mmh. Et pour moi, c'était un plus, parce qu'il y avait une confiance. Il y avait une confiance, je savais, bon, ensuite, quand est arrivé l'Internet, on a pu communiquer beaucoup plus rapidement. Quand j'avais un truc vraiment urgent à lui demander, il me répondait dans la journée ou dans la semaine, quoi.
Ouais.
Donc c'était mieux. J'étais pas tout seul.
Ouais.
Donc ça va, ça donne confiance d'avoir un appui comme ça, quoi.
Une approche d'un issue Shepard, ça s'est fait pareil, hein ?
Shepard, c'était... non, c'est-à-dire que Shepard, j'étais un lecteur passionné avant d'être son traducteur. C'est-à-dire pendant très longtemps, je l'ai admiré de loin. Ça, il fait partie de ces gens, quand je les ai découverts, il y en a quelques-uns comme ça, je me suis dit, je veux tout. Je veux lire tout ce qu'il a écrit. Et effectivement, j'ai tout acheté en anglais. Puisque bon, je préférais lire les textes en version originale, quoi. Donc j'ai tout acheté en anglais, j'ai lu beaucoup, et je l'ai rencontré il y a très très longtemps avant de le traduire. On a discuté 5 minutes comme ça. Et puis c'est après Jacques Chambon qui m'a demandé de traduire L'Aube écarlate. Ouais. Il dit tiens, j'ai envie que tu traduises un Shepard. Et puis après, il m'a confié ce qui... Le livre qui a pris bien des pérégrinations est devenu Aztec ou Bélial, quoi. Mmh. Puisque c'était, à l'origine, une sélection de Jacques Chambon. C'est lui qui avait fait le sommaire et ça devait paraître chez Flammarion. Malheureusement, Jacques est décédé avant que le livre sorte et la parution a été annulée. Et il s'est retrouvé chez le Bélial. Je l'ai apporté au Bélial quelques mois ou quelques années après.
Tu dis, je voulais tout lire. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que traducteur, tu lis énormément en anglais? Et est-ce que parfois... On va peut-être révéler des choses à des gens qui ne le savent pas, mais est-ce que parfois tu proposes aussi des textes à des éditeurs ?
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une chose. On parlera plus tard de Baskerville, mais Baskerville, ce sont des livres que je choisis et qui ont été publiés, on va dire, grosso modo, entre 1890 et 1914. Donc je fouille beaucoup les archives et j'ai commencé à explorer la presse quotidienne française de cette époque qui publiait énormément de romans feuilletons. Souvent des traductions, et c'est intéressant parce que certains de ces romans n'ont jamais été réédités en volume en France. Donc on fait des découvertes comme ça, et je me suis aperçu en feuilletant des quotidiens comme le Matin, l'Écho de Paris, Le Temps, etc., quand ils annonçaient un nouveau feuilleton, ils disaient « Ce livre est proposé et traduit par monsieur ou madame Untel qui, il y a quelques mois, vous a fait découvrir tel... » C'était le traducteur, c'était une garantie de qualité. C'est-à-dire que les traducteurs, je pense, à l'époque, je dispose pas malheureusement d'informations très sûres, il faudrait peut-être qu'il existe des livres d'histoire, je suis preneur, les traducteurs, c'était eux qui lisaient les textes en anglais, qui contactaient les auteurs, et qui ensuite disaient, je veux vous représenter, je vais essayer de publier votre livre en France, et qui allaient voir les directeurs de journaux.
D'accord.
Ça se faisait, bon, je le vois.
Ouais.
Donc je devine que je n'ai pas les preuves, mais je le vois, quoi. Et ça s'est toujours fait avec les traducteurs. Je pense surtout dans la littérature populaire, fantastique, science-fiction et policier. Il y a des traducteurs qui amènent des auteurs, qui conseillent des auteurs. Moi, je l'ai toujours fait. Mes collègues Michel Charrier et Florence Dolizy le font aussi. On le fait tous, quoi.
Alors, du coup, est-ce qu'il y a des auteurs que tu as amenés comme ça ou des titres ?
Eh bien, comment dirais-je, c'est pas moi qui ai proposé Poul Anderson au Bélial. C'est Pierre-Paul Durastanti qui a été l'étincelle, mais ensuite, quand il a dit à Olivier Gérard, tu sais quand même, si tu veux faire du Paul Anderson, il faut que tu vois Jean-Daniel. Et effectivement, ils avaient réédité le tome 1 de La Patrouille du Temps, parce que Pierre-Paul estimait qu'il fallait remettre ce livre, le rééditer, puis restaurer la traduction, l'embellir, la rendre fidèle. Et donc Olivier me contacte, dit « Est-ce que tu veux écrire la préface ?» Je dis « Oui, c'est génial de rééditer ça, est-ce que tu vas publier les trois suites ?»« Pardon ?» Il dit « Oui, il y a trois suites, tu ne le savais pas ?»« Ah non. » Donc je lui dis « Il y a trois suites, ça t'intéresserait de les traduire ?» Je lui dis « Oui, écoute, on va faire la première suite, et puis si ça marche, on a tout fait. »
D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de nous dire « Pierre-Paul Durastanti estimait que ce livre-là devait être remis un petit peu en avant et au goût du jour. Est-ce que ça veut dire que dans tes lectures, dans tes réflexions, il y a un regard sur ce qui se fait, sur ce qui a été fait, et où à certains moments tu te dis ce livre-là, ça irait bien en ce moment dans le paysage éditorial.
Oui, je me pose toujours la question. Oui. Ouais. Je lis un livre. Par exemple, j'ai lu un livre, je ne vais pas vous dire de quoi il retourne parce que c'est encore un projet un peu secret. Un livre d'un auteur, un jeune auteur anglais totalement inconnu en France, donc il venait de sortir un nouveau. C'est un roman mosaïque, c'est-à-dire c'est une série de nouvelles racontées à la première personne par le même personnage. C'est un mélange de fantastique moderne et de polar noir, très très réaliste, très très engagé politiquement, très à gauche dans l'Angleterre post-thatchérienne. Et donc, c'est un auteur que j'aime bien. J'ai déjà proposé à deux ou trois reprises, ça s'est jamais fait. Donc, je lis son bouquin, je dis, putain, c'est vraiment génial. Et puis, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me parle, tiens, j'ai un projet, on va faire ceci, etc. Est-ce que tu aurais des bouquins à me proposer? Je dis, oui, tout de suite, tiens, voilà ça. Ça va te plaire. Ouais. Donc, je rentre dans ma chambre d'hôtel, je sors mon ordinateur, et je lui envoie un email avec le lien sur le site de l'éditeur, deux ou trois critiques, etc. Bon, peut-être que ça va déboucher sur rien, mais j'ai lancé un truc. Et je fais ça, j'essaie de saisir les moindres occasions de ce genre. Mon rôle en tant que traducteur, c'est un rôle de passeur. C'est-à-dire que j'ai une passion, je veux la faire partager. Donc, au lecteur, en fin de compte, mais dans un premier temps, à des décideurs, quoi. Des éditeurs, des directeurs littéraires, des anthologistes que je connais, ou parfois je mets la main à la pâte moi-même, quoi.
Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu proposes, tu traduis derrière? C'est le deal implicite,
hein? C'est ce que j'essaie de faire. Là, parfois, je peux pas. Bon, par exemple, on va faire un peu de pub. Pour le Bélial, je viens de traduire Le Calice du Dragon de Lucius Shepard. Ça a été un exercice d'équilibriste, on détaillera tout à l'heure, mais c'est un livre qui vient de sortir, ces jours-ci, sorti spécial pour les Imaginales. Et en même temps, Olivier Girard avait un projet autour de Paul Anderson. C'était pas de l'inédit, mais c'était... une réédition augmentée avec enrichie d'une préface, etc. C'est moi qui on a discuté du projet, c'est moi qui ai fait la sélection, mais je ne pouvais pas faire le travail parce que j'avais ça. Et donc c'est Pierre-Paul qui a fait le boulot. C'est lui qui a restauré les traductions. Il y a des scientifiques de pointe qui ont fait une postface, des amis de Roland Lehoucq qui étaient passionnés par le projet, et le livre sort dans un mois. Je ne pouvais pas faire les deux. Mais j'ai joué un rôle, quoi.
Tu viens d'évoquer à plusieurs reprises Pierre-Paul. Comment ça se passe entre traducteurs? Il y a des relations, vous vous aidez beaucoup, vous repassez des projets de temps en temps.
Si tu veux, la plupart des traducteurs que je connais bien, ce sont des amis de plus ou moins longue date. Bon, Pierre-Paul, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Des gens comme Michel, je la connais depuis moins longtemps, Flo encore moins. Mélanie Fazi, qui est traductrice, je la connais depuis 10 ans, depuis qu'elle est active, etc. Et on se connaît bien. On a entre nous une liste de diffusion, c'est comme ça que ça s'appelle, sur Yahoo, où on s'échange, on lance des appels au secours. Tiens, j'ai une citation, est-ce que quelqu'un connaît la source? Tiens, j'ai de mots débiles à traduire, est-ce que quelqu'un peut m'aider? On m'a dit qu'un tel, ils avaient des problèmes, on vient de me proposer un contrat, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On est constamment en train de s'entraider. Ouais, ouais. Bon, il y a des rivalités, mais l'entraide passe au premier plan.
D'accord. Pour revenir un petit peu sur le boulot, là, on approche un petit peu du cœur de la matière. Quand tu travaillais beaucoup avec Dan Simmons, est-ce que, pareil, il y avait des allers-retours? Est-ce que connaître l'auteur, ça facilite un petit peu les échanges d'emails pour avoir des explications ou des choses comme ça? Est-ce que tu, en fait, en tant que traducteur, est-ce que tu travailles avec l'auteur américain?
Alors, là, je pense qu'il y a un équilibre délicat à trouver. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le traducteur garde son autonomie, se démerde tout seul. Pour parler crûment, pas « s'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que vous avez dit ça toutes les 5 minutes hein, ?» Ça ne le fait pas, non. Cela dit, il y a des moments où vraiment il y a une référence difficile à trouver. Bon, ben là, on demande. Là, je suis désolé, mais c'est un peu trop spécialisé pour moi. Je me souviens, mais ça, paradoxalement, c'était avant que j'entre en contact avec Dan Simmons. Je crois que c'était dans l'échiquier du mal. Il y a un mot sur lequel j'ai buté. Je ne trouvais nulle part. Et il a fallu que je consulte un vieux dictionnaire en anglais, un dictionnaire d'américanisme datant de 1890, pour découvrir que ce mot-là, c'était un mot d'un parler très localisé de la Nouvelle-Angleterre qui désignait je ne sais plus quel type de formation géographique. Mais c'était, c'est comme si un traducteur de l'anglais trouvait un mot en patois lorrain qui dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Bon, il faut pouvoir trouver, quoi. Et donc là, je m'astreignais à ne pas le déranger pour rien. C'est-à-dire, si je ne trouvais vraiment pas, alors là, oui, ouais. Je demande, bon, etc. Quoi.
En termes de style, quel est le style de Dan Simmons par rapport à Lucius Shepard? Parce que ça compte en tant que traducteur.
Oui. Ça, mais Dan Simmons, il a un style très fonctionnel, je trouve, parfois très complexe, alors que Lucius Shepard, il a un style foisonnant. Foisonnant qui est en même temps capable de retenue. Je pense au niveau stylistique pur, il n'y a pas de comparaison.
Ouais.
Shepard est incomparablement meilleur. Simmons, il a un talent de constructeur d'histoire, d'agencement d'intrigue, de suspense, de rebondissement, de construction des personnages aussi. Shepard, c'est pas le même registre. Mmh. Pas tout à fait. Bon, et d'autres écrivains, c'est encore différent.
Est-ce que ça veut dire comment est-ce que tu les travailles différemment? Quel travail toi tu fais en tant que traducteur sur le style?
Alors
justement,
là j'ai eu cette discussion récemment puisque bon il y a pas mal de traducteurs à qui ça arrive, notamment bon une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Nathalie Mège, qui depuis quelques années elle est tutrice, c'est-à-dire qu'elle prend sous son aile des étudiants en traduction pour il y en a un, une fois, elle l'a amené, c'est comme en plus c'est un amateur de SF, elle l'a amené pas ici, mais à Nantes, aux Utopiales. Il avait des lumières plein les yeux, le gars. Et moi, j'ai pris contact, enfin, c'est elle qui a pris contact avec moi, avec une étudiante qui malheureusement n'a pas pu venir ici, elle comptait venir, qui est en train de faire un travail universitaire, enfin, dans le cadre de sa formation, un travail de traduction, c'est-à-dire qu'elle a pris un roman inédit en français, d'un auteur qui l'intéresse, et elle doit en traduire des passages. Elle me demande de critiquer, de relire. Donc, j'essaie de me mettre dans la position d'un éditeur avec un débutant. Donc, on a des échanges fructueux. Et je me rends compte, parce que la formation au métier du traducteur a énormément changé depuis quelques années. Bon, quelqu'un comme Mélanie Fazi, elle est passée par là. Elle est passée par la Sorbonne, par l'unité de valeur de traduction. Et ces jeunes que je vois débarquer, ils ont une formation théorique que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai découvert ça sur le tas. Donc, je lui fais quelques remarques, etc. Elle me renvoie un email en disant « Oui, je comprends bien ce que vous me dites, c'est à cause de la... » Comment elle appelle ça ? De la paratage. Je dis « Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouvel impôt ?» Non. Donc, alors là, j'ai dû... Bon, je suis allé voir ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris. Ben, d'accord, ben, ok, oui. Effectivement, vous avez raison. Bon. Mais bon, je me souviens une fois, j'avais quelqu'un qui est ici. Je l'ai vu arriver, un ami de Strasbourg, Thierry Gendroc, qui a un intellectuel de haut niveau, qui un jour avait commencé à me poser des questions sur la traduction, mais alors très très poussée. J'ai dit, écoute Thierry, tu arrêtes, ce qu'il te faut c'est un ingénieur hydraulicien, moi je suis un plombier. c'est à ce niveau là hein. J'ai appris sur le tas, donc j'ai appris à faire ce que je fais plus ou moins bien puisque je continue de travailler, mais je n'ai pas la distance théorique, je n'ai pas le regard théorique. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Pierre-Paul Durastanti m'avait épaté une fois il y a très longtemps. J'avais traduit un livre qui avait été totalement repris en main par l'éditeur, contre mon gré. Il avait tout réécrit, je ne reconnaissais plus. Et donc j'ai dit, écoute, j'ai le droit, je prends un pseudonyme. Donc personne ne saura que c'est moi qui ai traduit ça. Et le bouquin sort, et quelques temps après, je vois Pierre Paul qui me dit, c'est toi qui as fait ça. Oui, mais j'ai reconnu ton style. Ah merde, j'ai un style. Voilà. mais je m'en étais pas rendu compte.
Alors justement, comment, enfin, si tu as ton propre style, comment tu arrives à te couler dans le style des autres?
C'est pas à moi de le dire, je sais pas. Ouais. Mais cela dit, je me rends compte à l'usage, puisque j'essaie de traduire d'autres auteurs, de pas rester tout le temps avec les mêmes. Il y a des gens avec qui j'ai beaucoup de mal. Quelqu'un comme Orson Scott Card, je suis en train de traduire mon deuxième Orson Scott Card, c'est très très dur. Parce que ça a l'air tout simple et bateau comme ça. Et je me rends compte que si je reste trop près du texte, c'est mauvais. Mm-hmm. Et si je m'éloigne trop, on ne reconnaît plus qu'un. Donc, il faut que je n'ai pas encore trouvé mes repères avec lui. C'est-à-dire que le premier bouquin, l'éditeur était satisfait. Mais le deuxième, il va falloir que je... Peut-être que je vais arrêter ce carte, parce que peut-être j'ai trop de mal. Et ce n'est pas de sa faute. Hein, je veux dire, il y a des affinités qui ne sont pas là.
C'est-à-dire qu'il faut, il faut en plus avoir des affinités stylistiques.
Ben, je pense que oui, et ça, bon, on demandera la question, on posera la question à Michel et à Flo. Hein, peut-être que deux traducteurs ne raisonnent jamais de la même façon. Hein. Moi, je sais qu'avec Scott Card, j'y arrive. Mais je veux dire, quelqu'un comme Lucius Shepard, pour moi, c'est la facilité. Il suffit que je plonge dedans et au bout de 10 minutes, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème parce que je colle à ça. À sa musique, je colle à son vocabulaire, ça, j'ai aucune difficulté. Ouais. Et en général, les lecteurs sont assez satisfaits. Donc, ça va, c'est bien, hein, j'en profite.
Est-ce que parfois tu as l'impression que ta musique s'éloigne un petit peu trop de la musique de l'auteur? Comment ça se danse?
Comment ça se danse? Takes two to tango. Oui, c'est une bonne métaphore. Je pense que moi, il faut que je sois vigilant, c'est-à-dire que je relis beaucoup. Hein. Ouais. Je relis beaucoup, je reviens en arrière, et je corrige, etc. Et de toute façon, le travail, le regard de l'éditeur, du directeur littéraire, est indispensable. C'est très angoissant pour un traducteur de ne pas être relu. Ouais. Parce qu'il dit, mais bon, moi je préfère me faire engueuler. Je me souviens, j'avais livré une traduction à Gérard Klein. J'ai passé 4 ou 5 heures chez lui à me faire tirer les oreilles. Et on est repassé sur tout le manuscrit. Là, il ne l'a fait qu'une fois. Quoi. Après, j'avais compris. Ouais. Sur un auteur bien particulier où j'avais pas accroché du premier coup, le deuxième, il n'y a pas eu de problème.
Quand on travaille sur un auteur comme Dan Simmons, son long cours, comme ça, est-ce que c'est plus facile en termes de style? Et est-ce que parfois, il n'y a pas un risque, justement, de se laisser embarquer par les précédents romans en termes de stylistique?
Oui et non, dans la mesure où le style de Simmons a évolué. Enfin, il a changé, je l'ai vu changer. Pas toujours en bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il fait partie de ces gens qui se laissent aller à faire des bouquins beaucoup trop gros. Je l'ai vu sur Terreur. Terreur, je pense que c'est... je ne vais pas trahir un secret. Quand chez Robert Laffont, ils m'ont donné Terreur à traduire, ils m'ont dit, si vous pouviez l'alléger de 10 à 15%, ça serait bien. Je leur ai dit, écoutez, si l'auteur est d'accord, je le ferai. Mais demandez à l'auteur. Visiblement, il a dû dire non. Ouais. Parce que ça, je veux dire, le travail n'est jamais fait sous la responsabilité du traducteur. C'est quand on m'a déjà demandé des choses comme ça, j'ai accepté ou j'ai refusé. Pour Terreur, honnêtement, je pense que ça aurait mérité d'être un peu allégé. Vraiment, ça traîne en longueur par moment. Il n'a pas voulu, donc moi j'ai été fidèle. C'est un texte intégral, vraiment. Bon. Mais il paraît, je ne l'ai pas lu, puisque bon, à ce moment-là, on avait déjà rompu, donc je ne voulais plus l'entendre parler. Il y a bien des gens qui ont lu son roman suivant qui s'appelle Drood, qui m'ont dit là, il n'y a pas 100 pages de trop, il y en a 200 de trop.
Oui, facile. Oui.
Voilà, bon, mais ça, je ne sais pas, je n'ai pas lu. Donc. Voilà.
Un flashback, il y en a 450 de trop. Enfin, c'est une autre problématique. Parlons peut-être. Alors, on va revenir sur ces histoires.
Peut-être crever l'abcès là, parce qu'il y a des gens qui sont pas au courant de l'histoire, ils sont en train de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bon, mais je vais le raconter très brièvement. Donc, Dan Simmons, j'étais un de ses traducteurs, un de ses plus fidèles. Et à un moment donné, il a lancé un site web. Où il y avait donc actualité, il reproduisait les couvertures de ses... Enfin, un site web d'auteur, avec un forum de ses lecteurs, et il m'a demandé de tenir une rubrique régulière. Ni vous parler de ce que vous voulez, de votre travail de traducteur, de mon actualité en France, mais vous parler de vos lectures, de ce que vous voulez. J'étais totalement libre. Et donc j'ai accepté, j'ai commencé à faire des rubriques, des chroniques trimestrielles, et j'ai vu le site, plutôt son forum, où il échangeait avec ses lecteurs, devenir petit à petit un site néoconservateur. C'est-à-dire, c'était des discours haineux, bouchistes, etc. Et pour moi, le point culminant a été atteint en janvier 2009, quand il y a eu l'attaque, l'opération Plomb durci d'Israël à Gaza, où alors là, ça a été un déchaînement d'islamophobie, de haine, etc. Et je veux dire, l'auteur et les lecteurs qui tournaient en rond là-dessus. Et lorsque j'ai vu arriver un appel à la délation, vraiment appelé à dénoncer au FBI les gens qui, sur les campus américains, voulaient attaquer Israël, enfin... Et donc, j'ai dit, là, je peux plus. Donc, je lui ai écrit en lui disant, je ne souhaite plus coopérer avec, collaborer à votre site web, voilà pour la raison, etc. Et il me dit, mais vous devez comprendre qu'après ce qui est arrivé chez nous le 11 septembre, on pouvait laisser parler les gens, les laisser délirer. Maintenant, on ne peut pas. Quand quelqu'un lance des trucs comme ça, il faut le dénoncer au FBI. Et donc, ce qu'il avait fait, il avait encouragé un de ses lecteurs à dénoncer quelqu'un au FBI. Et en fait, il a dit sur le forum, mais ne vous dérangez pas, de toute façon, je connais vos coordonnées, j'ai téléphoné à FBI, ils vont descendre chez vous pour que vous les rameniez à cette personne. Là, je dis, attends, c'est du délire, ça. Donc, je ne voulais plus entendre parler. Et donc, je lui ai dit simplement, je ne souhaite plus collaborer avec votre site web. Et il m'a répondu par un email en me disant, bon, puisque c'est comme ça, puisque vous me méprisez, que vous méprisez mes lecteurs, je vais demander par contrat à ce que vous ne traduisiez plus mes livres. Voilà, carrément. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il m'a foutu dehors. Il m'aurait dit... je ne souhaite plus que vous traduisiez mes livres. Je dis ok, d'accord, bon, c'est bon, on se sépare et on n'en parle pas, et j'aurais pas rendu la chose publique. Là, j'ai été très très peiné, que ça m'a foutu. J'en suis pas encore remis. C'était il y a 4 ans, je l'ai encore mauvaise, quoi. Et c'est depuis lors que je me méfie. Je ne rentre plus en contact systématiquement avec les auteurs. Je n'ai pas envie de, parce que Scott Card est encore pire idéologiquement parlant, je n'ai pas envie de rentrer en contact avec Orson Scott Card. Parce que lui, il ne va pas me virer, il va me tuer, quoi.
Ça tombe bien, il vient en France.
Non.
Si ?
Ah bon, je ne savais pas.
Ah. Bien, bon. Tiens, j'ai peut-être trahi une info en avant-première des Utopiales. Mais enfin, bon. Youps.
Il vient aux Utopiales.
Ouais.
Ah, mais donc, et comme le bouquin que je traduis, c'est pour la Talente, je sens que je vais y passer.
Il va y avoir des chouettes débats, hein. Venez. Parlons un petit peu.
Je demanderai à Frigide Barjot de venir aussi. Elle a rien à faire en ce moment, elle est terrée chez elle, protégée par la police.
Ouais. Mais idéologiquement, ils ne sont pas si loin que ça, finalement, peut-être.
Ah ben je pense, non. Sérieusement, pour ce que j'en sais, je pense que Scott Card est plus près de, comment elle s'appelle, de Bourges que de Frigide Barjot.
C'est un cas particulier, Orson. Parlons d'un cas qui se passe beaucoup mieux, c'est Lucius Shepard. Comment est-ce que tu travailles avec Lucius Shepard? Et puis on va parler évidemment du Calice du Dragon.
Là, je travaille. Mais il faut savoir que les derniers projets. Bon, Lucius Shepard au Bélial, c'est une histoire à rebondissement. Puisque je l'évoquais tout à l'heure, le premier recueil qui est sorti au Bélial qui s'appelle Aztec. À l'origine, il devait sortir chez Flammarion. Il avait été choisi par Jacques Chambon, qui m'avait demandé de le traduire. Et malheureusement, Jacques Chambon, bon, ça fait 10 ans, je me souviens, on avait fait une célébration ici aux Imaginales, il y a 10 ans, peu de temps après son décès, pour célébrer sa mémoire. Et il m'avait confié ce bouquin qui est devenu orphelin. Et j'ai discuté avec Olivier Girard un jour, et j'ai compris qu'il adorait Lucius Shepard, qu'il aurait aimé le publier. Mais que bon, malheureusement, financièrement, il ne peut pas faire tout ce qu'il voulait. Je lui dis, mais attends, moi j'ai traduit un bouquin qui ne paraîtra jamais. Donc si toi tu veux acheter les droits à Lucius Shepard ou à son agent, moi je récupère les droits de ma traduction, puisque dès l'instant que je fais une traduction pour un éditeur X et que l'éditeur ne la publie pas, je suis fondé à récupérer mes droits d'auteur, et après la traduction, j'en fais ce que je veux. Et donc je lui dis, si je récupère la traduction, moi je te l'offre. C'est-à-dire, disons, tu me fais quand même un contrat, tu me payes, mais puisque j'ai déjà été payé une fois, je suis prêt à attendre les royalties. Et donc, on a fait comme ça. Le recueil est sorti au Bélial, il a eu un bon succès, il a eu un grand prix de l'imaginaire, il a été réédité chez J'ai lu en poche, et donc ça a lancé la machine. Quelques années après, on a fait un deuxième recueil. Olivier a fait traduire un roman à un grand traducteur qui s'appelle Henri-Luc Planchat, qui habite pas loin, je crois, hein, c'est quelqu'un de la région. Et puis ensuite, on est parti sur un gros morceau qui est le Dragon Griol. Alors, le Dragon Griol, il faut savoir que c'est, si vous l'avez lu, c'est quand même un monument. C'est un personnage, un cycle que Lucius porte en lui depuis 30 ans, puisque la première nouvelle date de 1984. Et petit à petit, alors ça fait partie des textes que j'ai achetés pour mon plaisir personnel et que j'ai lus, et il a été question à un moment donné qu'ils mettent un terme au cycle, qu'ils... comment on dit, le chlore au subjonctif, là, aidez-moi, enfin bon, qui le ferme, avec un court roman inédit. Avec un court roman inédit. Et donc là, ça nous a intéressés, Olivier et moi, et on lui dit, mais le court roman, oui, mais il est prêt, mais l'éditeur américain le sortira que dans 2 ans. Ben, attendez, mais on va le sortir avant. Et donc, le Bélial a acheté l'ensemble du recueil. Le tout dernier texte n'était que sur manuscrit. Lucius nous a envoyé un fichier. Moi, j'ai traduit à partir des bouquins de ma collection et à partir de son manuscrit. Et le Dragon Griol est sorti en exclusivité en France. Et il a eu le prix Imaginal. Et ensuite, comment dirais-je, là, au mois de l'automne dernier, il y a Stéphanie Nico qui téléphone à Olivier Girard. On a envie d'inviter Lucius Shepard aux Imaginales. Est-ce que tu as prévu quelque chose ? On a plusieurs trucs sur le feu, on va voir. Et donc Olivier a contacté Lucius Shepard. Il dit, bon ben voilà, vous allez être invité à un festival sympa en France. C'est au mois de mai. On aimerait bien sortir un livre. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ? Ben, je suis en train d'écrire une nouvelle histoire du Dragon Griol. On prend. Et donc, il faut savoir que c'est un texte que j'ai traduit avant que Lucius l'ait fini. C'était un peu dangereux, quoi. Ouais. Donc, début janvier... Lucius Shepard, il me contacte, il dit, on va s'y mettre, je vous envoie ce que j'ai fait. Je dis oui, de toute façon là j'ai un boulot à finir, mais dès mi-janvier je m'attaque alors ça s'appelait Beautiful Blood, puisqu'il est beaucoup question de sang, mais bon, Beautiful Blood comme titre français, bon, on a pensé à garder le titre anglais, mais bon, on n'aime pas, et beau sang ou bon sang, bon, ça le fait pas, quoi. Donc j'ai dit, attends, c'est une histoire de sang, le calice, allez hop, calice du dragon, ouais. Tout le monde était content. Et donc, il a commencé à m'envoyer ce qu'il avait fait. Et j'ai commencé à traduire. Et de temps en temps, je disais, attendez là, oui, oui, mais ça va être expliqué, vous inquiétez pas. Un petit truc, on a réglé 2 ou 3 petits détails, mais il n'y avait rien à faire, quasiment. J'ai pas eu à faire un travail d'éditeur. Avec Lucius Shepard, ce n'est pas la peine. Et de temps en temps, j'envoyais des scènes particulièrement visuelles à Nicolas Fructus, qui devait illustrer le livre. Et dès que le premier jet a été fini, j'ai envoyé ça à Nicolas. Je lui ai dit, voilà la version brute de décoffrage, comme ça tu vas pouvoir te prendre ton pied. Effectivement, vous regardez le bouquin, il y a une illustration par chapitre et c'est splendide. Là, il s'est vraiment défoncé. Et le livre a été prêt dans les délais, il a été imprimé et il est là. Voilà. Et alors, il y a une surprise, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ce sagouin de Lucius, il m'a mis dedans. Je suis un des personnages principaux, je suis un salaud. Je suis un infâme salaud. Et je meurs à la fin. Ça. C'est lamentable.
Comment ? Justement, alors, il t'a inclus dans le roman. Comment est-ce que toi, tu l'as pris ?
Ah bah, j'ai été un peu surpris.
Quelle est la réaction ?
Ma première réaction, je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée parce que j'ai pas envie de me mettre en avant. Je veux dire, les gens vont croire que c'est moi qui ai glissé mon nom. Donc j'ai demandé à Olivier, je dis, on va peut-être lui demander de changer. Mais non, on garde. C'était un complot.
Est-ce que tu pouvais t'y attendre ? Est-ce que non. Tes relations avec Lucius Shepard sont si bonnes que tu t'es dit, bah, c'est la conséquence ?
En fait, on en a discuté au petit déjeuner. Il a dit que, bon, je ne sais pas si c'est un portrait fidèle de ma personnalité, j'espère que non, mais il dit que quand on a parlé de la vie en temps de guerre au petit déjeuner, il dit que nombre de personnages, de soldats américains en Amérique centrale, lui ont été inspirés par des soldats qu'il avait rencontrés quand il était correspondant de guerre. C'est-à-dire, mais c'est comme beaucoup d'écrivains, et c'est une éponge. Hein. C'est-à-dire qu'il regarde, il prend un truc et puis il le restitue, quoi.
Ouais, parce que c'est quand même pas anodin. Jean-Daniel Brecht dans
un roman. Non, mais
attendez,
bon, le Jean-Daniel Brecht est un politicien retors, sans scrupules, qui prend tous les pouvoirs. Donc ça va, non, moi je. Ça va, le pouvoir, je suis passé à côté. Hein.
Un petit mot peut-être sur Baskerville, on attaque nos 15 dernières minutes. Comment est née cette collection ? Tu as commencé à en parler. Et justement, comment tu travailles avec ces auteurs ? Parce qu'on a bien compris que tu essayais d'avoir le maximum d'informations sur leurs univers pour pouvoir mieux les traduire, entre guillemets.
Eh bien, là aussi, ça me remet en mémoire un passage il y a quelques années aux Imaginales. Je me souviens, on avait fait un débat, je ne sais plus avec qui ni sur quel sujet. Et puis il y avait quelqu'un lors des questions, quelqu'un qui me dit, en tant que traducteur, est-ce qu'il y a un livre que vous rêvez de traduire et qu'on vous a jamais proposé ? J'ai dit oui, et c'était pas un des bouquins de Baskerville, mais c'était un des bouquins que j'aurais publié en Baskerville si Le Visage Vert s'était pas enfin décidé à le publier. C'est En quête de l'inconnu de Robert W. Chambers, qui est un livre que j'avais lu avec ravissement, qui est un mélange d'humour, de science-fiction, de cryptozoologie et de roman sentimental. C'est l'histoire, c'est un faux roman puisque c'est 5 textes qui se suivent. Le principe est le même. Le héros narrateur, qui est un savant un peu farfelu, apprend que dans un coin perdu des États-Unis, il subsiste une créature du fond des âges. Donc il va la chercher, il tombe sur une jeune fille, il tombe follement amoureux de la jeune fille, et à la fin du récit, la jeune fille est partie avec quelqu'un d'autre, il a loupé la bête fabuleuse. Donc c'est du running gag comme ça, et j'ai toujours trouvé ça très drôle, et je rêvais de traduire ce bouquin-là et d'autres bouquins de la même époque, parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, le premier roman que j'ai traduit, ou un des premiers romans, c'est Le Scarabée de Richard Marsh, que j'ai découvert grâce à Richard Nolan, et qui m'a fait découvrir toute cette période, fin de l'époque victorienne, l'époque édouardienne, c'est-à-dire grosso modo de 1890 à 1914, où en Angleterre, beaucoup, et aussi aux États-Unis, il y a eu un foisonnement de littérature populaire, fantastique, policier, détective, un peu même de la proto-science-fiction. C'est l'époque de Conan Doyle, de H.G. Wells, aussi de plumes plus prestigieuses comme Kipling, Mark Twain, etc. Et il y a eu un foisonnement de contes, de nouvelles, de romans. Et je rêvais de découvrir cette époque. Malheureusement, le problème, c'est que jusqu'à une date récente, si on voulait lire des livres de cette époque un peu inconnus ou un peu oubliés, on devait les acheter au tarif des antiquités. Donc c'était hors de prix. Et depuis que l'Internet s'est développé, depuis que le print on demand, l'impression à la demande s'est développée, on a vu arriver des rééditions de ces livres, je parle en anglais, et surtout on a vu des sites les proposer gratuitement, en fac-similé, bon, ou alors en retravaillé, style projet Gutenberg. Et donc il y a quelques années, quand je me suis rendu compte de ça, je me dis, attends, mais Richard Marsh, mais il y a 50 bouquins que je peux lire de Richard Marsh, alors que je ne les avais jamais vus. J'ai rattrapé un sacré retard. Et à force de lire, de découvrir des auteurs que je connaissais que de nom, je me dis, mais il faut faire quelque chose avec ça. Et donc, j'ai commencé à voir, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à des éditeurs de lancer des collections. Et j'en ai discuté avec Xavier Legrand Ferronnière du Visage Vert. Il me dit, mon pauvre Jean-Daniel, ça fait 20 ans que j'essaie, personne n'en veut. Je dis, bon, ok, je vais le faire moi-même. Et dans un premier temps, je me suis dit, je vais devenir éditeur. Et puis après, je me dis, attends, j'ai pas le temps. C'est-à-dire, traduire des bouquins, oui. Mais alors, les éditer, les présenter, faire la promotion, etc., tu es bien placé pour le savoir, c'est un boulot monstrueux. Quoi. Bon, j'ai pas le temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Rivière Blanche faisait exactement le travail que je voulais faire, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que Rivière Blanche a des activités en langue anglaise, sous le nom de Black Coat Press, et ils ont fait appel à un fou qui s'appelle Brian Stableford, qui est venu ici aussi il y a quelques années, qui lui est passionné par la vieille science-fiction française et qui traduit à bride abattue des classiques oubliés de la science-fiction française. Il est traduit en anglais, il les présente, il fait des éditions critiques qui sont publiées par Black Coat Press. Donc je suis allé voir Philippe Ward, je lui ai proposé mon projet. Il a réfléchi un très long moment, environ un quart de seconde, et il m'a dit oui. Il m'a dit, tu vas, parle-en à Jean-Marc L'Officier. Donc j'ai envoyé un mail à Jean-Marc Officier qui, bon, c'était de l'Internet, ça allait moins vite que la parole, en un quart de minute, m'a répondu oui. Et donc, en fait, Jean-Marc, il a fait plus que me répondre oui. Il m'a dit, on était au mois de juin, juillet, il me dit, c'est génial, on sort le 1er mars, donne-moi un programme. Ah, pour quand tu le veux, pour septembre, bon, d'accord. Et j'ai élaboré mon programme de la première année, puisque ça fonctionne comme ça chez Rivière Blanche. Le mois de septembre, ils annoncent le programme de l'année suivante. Et donc, en septembre, je dis, voilà, les 6 premiers bouquins. Il y en avait 4 à traduire, quand même. Hein, ça... Donc, je me suis lancé là-dedans à fond.
Et alors, comment est-ce qu'on travaille avec un... Comment est-ce qu'on discute avec un auteur mort?
Eh bien, j'ai très vite compris deux choses. C'est-à-dire qu'au début, je voulais publier de tout. C'est-à-dire, je voulais publier de la vieille science-fiction, du fantastique, du policier, de l'humoristique. Et je me suis rendu compte très, très vite que j'allais me disperser. Et donc, je me suis dit, ok... Où est-ce que je peux faire le plus de découvertes? Et je me suis aperçu que c'était dans le genre policier. Parce qu'il y a énormément... Je veux dire, on connaît Conan Doyle, mais les rivaux de Sherlock Holmes, en France, on en connaît très peu. Mais il y a eu un foisonnement de detective fiction à cette époque-là, dont on ne sait rien en France ou presque rien. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est le policier humoristique. Et là, j'ai fait des découvertes. Bon. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur le thriller, sur le policier humoristique. Et surtout, je vais faire une politique d'auteur. C'est-à-dire, je vais essayer d'avoir des auteurs vedettes. Et donc, j'ai commencé par creuser les auteurs qui me passionnaient le plus et surtout ceux sur lesquels je pouvais avoir le plus de renseignements. Bon. Donc, j'ai découvert quelqu'un comme Grant Allen, qui était totalement oublié en France. Alors, le premier Grant Allen que j'ai publié, Les exploits du colonel Clay, il n'existait en France que sous la forme d'une édition pirate, qui était totalement introuvable depuis les années 1910. Bon. Robert Barr, à ma connaissance, il n'y avait aucun volume qui avait été publié. J'ai découvert que Lord Stranley, que j'ai sorti le mois dernier, avait été publié, mais en feuilleton dans la presse. Il n'avait jamais fait l'objet de volume. Richard Marsh, il y a Le Scarabée, et il y a un bouquin de Richard Marsh qui existait en français, mais qui avait été réécrit par Maurice de Cobra. C'est-à-dire, non, mais c'était attribué à Richard Marsh, adapté par Maurice de Cobra. C'était un policier qui se passait à Londres, et dans l'adaptation française, tout se passe à Paris. Tous les personnages sont changés, ça se passe... C'était très fréquent, hein. J'ai même découvert un auteur anglais qui réécrivait tous ses livres pour la publication aux États-Unis. Il transposait tout ça de Londres à New York. Donc il y a des versions parallèles, c'est très très bizarre, quoi. Et donc c'est mes deux leitmotivs. Je concentre sur le policier, ce qui n'empêche pas que je fais du fantastique de temps en temps, et j'ai mes auteurs fétiches que je développe, quoi. C'est-à-dire que j'essaie d'imposer petit à petit.
Une petite question d'organisation, donc traducteur plus Baskerville, où tu traduis aussi, où tu diriges et où tu fais aussi un travail de promotion des livres que tu publies, t'es pas très loin de l'éditeur. Comment tu t'organises en termes de journée, de séances de travail, de...
J'ai arrêté de dormir.
Ouais. C'est un bon conseil. Hein,
non,
pour
je plaisante, mais effectivement, je m'aperçois que le travail de Baskerville, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a traduire un livre. Bon, traduire un livre pour Baskerville, j'essaie de le faire dans les mêmes conditions que de traduire un livre pour La Talente ou pour La Fond. C'est-à-dire que pendant un mois à six semaines, je ne fais que ça de mes journées. Bon, donc il faut que je ménage des plages, parce que on va malheureusement arriver à un constat très désagréable, c'est que ça ne se vend pas du tout. Donc ça ne me rapporte rien. Je fais ça pour l'amour de l'art. Bon. Et donc j'essaie de traduire traduire en étant payé, et puis de temps en temps je traduis sans être payé, pour moi. Mais cela dit, il y a un autre aspect dans le travail de Baskerville, c'est-à-dire les recherches. Quand je découvre un auteur qui m'intéresse, donc j'essaie d'en savoir plus. Bon, et là il m'arrive de passer de 2 ou 3 heures par nuit devant l'ordinateur, à fouiller sur Internet, à récupérer des informations, et puis après je distille, j'ordonne, etc. Quoi. Et puis alors, malheureusement, là où je ne peux rien faire, c'est le travail de promotion, parce que ça, il faudrait que je m'y consacre au moins au quart temps. J'ai pas le temps. Donc, Baskerville existe sous deux formes, c'est-à-dire sous une forme papier, c'est chez Rivière Blanche. Donc là, Rivière Blanche fait son boulot. C'est-à-dire c'est Philippe Ward qui s'occupe de chercher des chroniqueurs, des services de presse, etc. Comme il le fait pour tout Rivière Blanche, il le fait aussi pour Baskerville. Et j'ai aussi créé une collection numérique. Mais là, le problème, c'est que personne ne lit en numérique encore pour l'instant. Ah ben, tu vas me faire le plaisir de tout acheter. Mais donc, ça, c'est difficile parce que le numérique, j'essaie de me placer comme auteur auto-édité, puisque ce sont des œuvres en anglais qui ressortissent au domaine public, et c'est moi qui les traduis, donc c'est moi le propriétaire, c'est moi l'auteur. Mais le problème, c'est qu'il faut que je fasse moi-même ma promotion, et bon, c'est très difficile, personne ne me connaît. Je veux dire, je suis référencé Baskerville, les livres que j'ai édités en numérique, parce que pour des raisons un peu complexes, je n'ai pas tout fait, j'ai pas fait sous la même forme, mais ils sont disponibles sur Amazon Kindle, ils sont disponibles sur Kobo Books, et je suis aussi disponible sur le site des Moutons Électriques. Mais je veux dire, les ventes sont dérisoires. Il n'y a pas un de mes titres qui s'est vendu à 10 exemplaires, alors que ça fait 2 ans que ça existe. Enfin, un an en numérique. C'est une question, il faut se faire connaître. Et bon, moi je ne suis pas... 50 Shades au Baskerville, c'est pas encore. Hein, ça viendra peut-être, mais bon. Donc c'est ça le plus difficile, c'est de jongler, effectivement. Et bon, malheureusement, je suis obligé de réduire la voilure. J'avais prévu une traduction inédite pour septembre, je vais pas pouvoir la faire. C'est-à-dire que bon, j'en ai discuté avec Jean-Marc et Philippe, ils m'ont dit bon, ok, ben. Par contre, j'avais en réserve des traductions domaine public à restaurer, Bon, mais c'est pareil. Un bouquin que je vais, une traduction que je devais restaurer pour 2014, je vais la restaurer pour septembre, puis je vais décaler les inédits. Bon, ça, comme il n'y a pas une grosse attente du public, je pense que je décevrai personne, quoi. Et puis ça fait plaisir à comment elle s'appelle, à Bernadette, l'épouse de Philippe Poire, parce qu'elle avait adoré le tome 1, elle voulait lire le tome 2, donc elle le lira plus vite, quoi.
D'accord. Vous avez compris, si vous achetez tous un Baskerville, ça devient un best-seller.
Ah bah, oui, mais très sérieusement, j'ai les chiffres de vente ici, c'est à se flinguer, quoi, hein. Les Baskerville en papier, chez Rivière Blanche, donc c'est en moyenne, enfin, les meilleures ventes, c'est 60 exemplaires. Voilà, parce que c'est de la petite édition. Et les numériques, c'est la meilleure vente, c'est 8 ou 9 exemplaires. Quoi. Parce que personne ne connaît. Parce que c'est... Bon, le problème aussi, c'est que, comme je l'ai dit, bon, je suis surtout connu dans les cercles de la science-fiction et de la fantasy, c'est du policier. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de me faire connaître des amateurs de polar. Il n'existe pas, ou je n'ai pas trouvé... Dans le registre du policier, il n'existe pas l'équivalent d'ActuSF, par exemple. Ils n'ont pas un site d'information comme ça, avec un forum où on peut gentiment, à condition de ne pas être trop vulgaire, faire son autopromo. Ça n'existe pas. Le polar, c'est pas les mêmes codes. Donc je cherche. J'ai essayé de m'introduire dans le festival du polar toulousain, je me suis fait jeter. Je suis arrivé avec mes bouquins en disant « moi je suis libraire, je ne vends que ce que m'envoient les diffuseurs. » Ah bon, d'accord. Voilà, donc au revoir. Et laissez votre adresse, on vous écrira.
Il nous reste une dizaine de minutes, un petit peu moins. Est-ce que vous avez des questions ? On doit 6 minutes très exactement. Des questions pour Jean-Daniel ?
Oui, alors attendez, hop.
On va faire passer le micro.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Non, ça ne marche pas.
Si, si. Mais si, ça marche.
Oui, ça marche. Merci. Je voulais vous demander par rapport au... Apparemment, vous arrivez à avoir des relations assez privilégiées avec les auteurs que vous traduisez. Et j'aimerais savoir si ça vous est déjà arrivé, justement, à un auteur que vous voulez traduire et avec lequel vous n'avez pas ce dialogue, cette possibilité de travailler. Quelqu'un qui considère que son œuvre, elle est finie et que c'est à vous de tout comprendre. Est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur quelqu'un qui estime que... vous non. avez...
Non, ça pourrait se présenter, effectivement, c'est un cas de figure intéressant. L'auteur qui dit, j'ai tout dit, voilà. J'ai tout expliqué, voilà. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Quoi, ouais. Non, ça m'est jamais arrivé. Bon, mais il faut dire que, comme je l'ai dit, maintenant, je fais davantage attention. J'essaie de me faire une idée de la personnalité de l'auteur avant d'essayer de nouer des contacts. Bon, par exemple... j'ai eu une expérience que moi j'ai trouvé très agréable avec un roman qui est paru il y a 2 ans chez La Talente qui s'appelle Les Magiciens de Liv Grossman. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai bien aimé traduire. Mais je n'ai pas cherché à rentrer en contact avec l'auteur parce que Dan Simmons m'avait un peu échaudé. Et puis c'est un auteur qui a commencé à avoir un blog, une présence sur Facebook. Donc j'ai commencé à lire ce qu'il disait, etc. Je me suis dit finalement il a l'air très sympa. Et donc, j'ai commencé petit à petit à faire des travaux d'approche. Et bon, c'est quelqu'un, j'ai pas encore noué des relations, mais ça va venir, quoi. Parce que j'ai envie de le connaître. Mais maintenant, si ça se trouve, il va peut-être me dire, mais je peux pas vous aider, vous débrouillez tout seul. Quoi. Ce que j'ai fait jusqu'à présent. Dire, je l'ai jamais embêté. Puisque j'ai traduit Les Magiciens il y a 2 ans. J'ai traduit le tome 2, c'est le bouquin que j'ai fini en janvier, il paraît le mois prochain. Pub. Et je me suis débrouillé tout seul. Je ne suis pas allé l'embêter. Alors que j'aurais pu, parce qu'il y a des... Et il a fait appel à des légendes françaises. Il y a une partie du bouquin qui se passe en Provence, avec la Tarasque. Il y a une Tarasque qui vient dire bonjour. Il y a le renard du roman de Renard qui joue un rôle très important, etc. J'ai été assez surpris, mais je ne suis pas allé l'embêter pour voir comment... j'ai corrigé 2 ou 3 détails où c'était planté, mais je ne suis pas allé l'embêter pour voir comment il avait fait ça, quoi. Il faudrait demander, là, puisque je suis le seul à parler, on va demander à Michel Charrier s'il a eu ce genre d'expérience.
Michel.
Si tu veux le micro.
Merci. Moi, je fais comme Jean-Daniel, j'essaye de déranger au minimum les auteurs, parce qu'il faut savoir que parfois, On peut traduire des livres qui ont été publiés quelques années plus tôt et l'auteur est vraiment passé à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il renie son livre ni que son livre ne l'intéresse plus, mais il est dans toute autre chose, donc il n'a pas forcément envie qu'on le replonge dans un livre qu'il a écrit il y a 5, 6, 7 ans. Donc c'est vrai que je demande vraiment quand j'y suis obligée. Mais j'ai jamais eu de réponse non plus du genre « débrouillez-vous ». En fait, la plupart du temps, moi, les auteurs que j'ai contactés pour ça étaient rassurés. Ils me disaient « ah bon, vous avez remarqué ça ? Ben, mon éditeur anglais, par exemple, il n'a pas remarqué qu'il y avait un problème et tout. » Et ça les rend confiants plutôt, je trouve. Ouais. J'ai eu plutôt de bons retours par rapport à ça. Ils se sont jamais vexés, par exemple, parce que c'est vrai que, enfin, moi, je connais quelqu'un, enfin, une traductrice, dont un auteur s'était vexé parce qu'elle avait relevé une incohérence et elle lui avait demandé qu'est-ce qu'on fait et tout. Et en fait, il l'avait très mal pris. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense que ça dépend vraiment des auteurs.
Ça recoupe mon expérience. En général, en règle générale, c'est vrai que, bon, faut dire que l'édition aux États-Unis, ça a été constaté par des observateurs américains. Des journalistes, des critiques, les conditions de travail dans l'édition aux États-Unis ces dernières années se sont dégradées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de directeur littéraire. Il n'y a plus de gens qui relient, qui corrigent, qui disent à l'auteur, là, tu t'es planté, tu as fait revenir ce personnage que tu avais tué 100 pages plus tôt. Ça arrive. Hein. Donc, maintenant, ça, beaucoup d'auteurs sont reconnaissants aux traducteurs quand ils s'aperçoivent qu'il a lu, il ou elle a lu avec attention, qu'il a relevé des incohérences, etc. Bon, et aussi on l'a observé quand on accueille des invités étrangers dans des festivals français, quand ils sont interrogés par des gens qui ont lu leur livre, ça les change.
Une dernière question, il nous reste 120 secondes. Oh là, trois.
Allez, voir, là, ouais,
bah. Rapidement. Oui, parce qu'il y a l'apéro qui se prépare, c'est compliqué. Alors, de rester,
oui,
trop longtemps.
Ma question porte, c'est pas des bouquins de SF que vous avez traduits, c'est les Ken Follett. C'est, oui, des pavés sur lesquels vous avez bossé, je crois, à 4 ou à 5. Alors, commencez de faire ce genre de boulot à plusieurs en même temps.
Ah ben, c'est très intéressant, parce que alors, c'est une expérience un peu exceptionnelle. Bon, pourquoi ça se fait d'abord ? Pourquoi on est à 4 ou 5 sur le livre ? C'est parce que Ken Follett est un auteur mondialement connu. Et il demande, ou alors du moins c'est parce que, bon, maintenant on vit dans un monde mondial, hein, il faut que son livre sorte en même temps en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie et ailleurs. Donc les délais sont très serrés, c'est-à-dire pour un livre qui va sortir en septembre-octobre, l'éditeur Robert Laffont reçoit le manuscrit définitif ou presque en février. Et il faut que la traduction soit prête en mai, juin ou juillet. Alors, puis il y a les vacances, il y a l'été. Donc, il est impossible à une seule personne de tout traduire. Donc, comment ça se passe ? Il y a un chef de projet, puisqu'on est 4 ou 5 traducteurs sur le coup. Il y a un chef de projet qui est, au cas précis, c'est Odile Demange, qui est aussi une grande traductrice. C'est elle qui a traduit le dernier Tom Wolfe, je crois, qui vient de sortir. Bon. Et donc, c'est elle qui dirige ça. On répartit le bouquin en tronçons. Les traducteurs sont en contact via Internet et on s'échange des informations. On unifie le vocabulaire. Il y en a un qui fait des recherches sur tel terme technique. Bon, le tome 1, il y avait beaucoup de choses sur la mine dans le pays de Galles, donc il a fallu. C'est la première, parce que j'étais le seul mec dans l'histoire. Hein. La première qui s'est retrouvée à traduire ça, qui a fait toutes les recherches et qui a communiqué à un petit glossaire. Moi, j'avais l'habitude, puisque il y a très longtemps de ça, j'avais traduit en collaboration avec le regretté Pierre Carré la série L'Aube de la nuit de Peter Hamilton. On s'était fait un dictionnaire. Et maintenant, j'ai le réflexe, même quand je suis tout seul, qu'il y a beaucoup de néologistes, je me fais un dictionnaire, parce qu'on ne sait jamais, il y aura peut-être une suite. Et donc, je garde tout. Et donc, constamment, on est en contact et régulièrement, chacun envoie son travail au chef de projet qui unifie tout ça. Il y a des retours et puis voilà, quoi. C'est intéressant de travailler comme ça parce qu'on échange. Parce que bon, le travail du traducteur, en général, c'est solitaire. Là, on est en équipe. On voit, tiens, t'as traduit ça comme ça, j'aurais pas pensé, c'est intéressant, je prends. On s'enrichit, quoi.
On arrive au terme. Merci à tous. Merci à Jean-Daniel. N'hésitez pas à lui poser des questions. Et puis, on vous retrouvera dans l'après-midi. Merci beaucoup. Alors.
Oh. Vous êtes invité sans engagement de votre part. Si vous voulez prendre des petites pubs pour Baskerville, c'est moi qui les ai.